France Info. 20h-21h, France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernat.
Bienvenue, bonsoir dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion tous les soirs en direct sur France Info, franceinfo.fr et sur les réseaux sociaux, bien sûr avec le hashtag les informés. Alors juste avant de commencer, nous aimerions saluer l'intérêt des journées internationales, souvent raillées pour leur inutilité, leur bien-pensance. Mais là, c'est un événement vraiment utile puisque dimanche, nous célébrerons la journée mondiale de l'orgasme. Et dimanche, c'est le 21 décembre, célébrer la journée mondiale de l'orgasme, le jour le plus court de l'année, c'est ce qu'on appelle un principe de réalité. Alors eux, ils n'ont pas boudé leur plaisir en bravant les éléments pour venir jusqu'au studio de France Info, à savoir Virginie Petit de Cour International, bonsoir.
Bonsoir.
Le consultant média Emery d'Oligier, bonsoir.
Bonsoir.
Julien Bayou, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, bonsoir.
Bonsoir.
Et Jacques Bronstein de JQ, bonsoir.
Bonsoir.
Et au menu des informés de France Info ce soir, le cannabis va-t-il nous sauver de la faillite? Après la guerre froide, la cyberguerre a-t-elle commencé avec le retrait du film The Interview? François Hollande en toute quiétude, les sondages s'améliorent et découvre les dîners en ville. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat.
20h-21h, France Info, les informés. Jean-Mathieu Pernat.
Il n'apparaît ni en string, ni dans une soirée Jean Ferrat, d'une section du Front de Gauche en train de faire la chenille, encore moins avec sa moitié sortant d'un magasin Chanel. Non, Jean-Luc Mélenchon a simplement accordé une interview au magazine Closer. Il déclare répondre à Closer pour parler seulement à ses lecteurs, bien sûr. Étrange choix de la part de celui qui vilipende la classe médiatique que d'avoir choisi un magazine People pour s'exprimer. Pourtant, voilà ce que Jean-Luc Mélenchon disait de cette démarche journalistique, donc People, en 2011 sur la chaîne publique Sénat.
Moi, je ne suis pas intéressé à mettre ma personne sur la table. Je ne veux pas, je demande qu'on le comprenne, je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas. Et si les gens qui, par exemple, diraient « je vais voter pour lui parce que je le trouve sympa », eh bien, je leur dirais « je ne veux pas de vous parce que ça ne m'intéresse pas ».
Voilà, Jean-Luc Mélenchon à Public Sénat. Alors, après les photos de François Hollande en scooter, Florent Philippot à Vienne, est-ce que Closer est devenu l'hebdomadaire politique un peu du 21e siècle, Jacques Bronstein?
Politique, je ne sais pas, mais visiblement, faut bien reconnaître que ça intéresse plus les gens que d'autres hebdomadaires dont le modèle journalistique est un petit peu démodé. Parce que ce qui se passe, c'est que grosso modo, aujourd'hui, ces informations, on est tous contre, on ne veut pas que la vie privée soit dévoilée, car c'est très mal. Il n'empêche que tout le monde ne parle que de ça. Et les journaux sérieux font des grandes chroniques et des tribunes pour expliquer en quoi c'est un problème, le fait que... Mais c'est aussi une occasion d'en parler. Et à partir du moment où c'est ça qui est au centre du débat médiatique, on peut juste se positionner par rapport à ça, mais c'est difficile de dire « ça n'existe pas, je suis contre ». Et Jean-Luc Mélenchon en prend juste acte.
Mais c'est ça, oui. Emery d'Oligier, c'est étonnant quand même de voir Jean-Luc Mélenchon dans Closer.
Moi, je trouve que c'est un coup parfait. En termes de communication politique, c'est un coup parfait parce que d'abord, il choisit un support qui n'est pas du tout le support habituel des politiques. Et en plus, c'est un support qui est en général lu par ceux qui ne lisent pas les autres journaux. Donc peut-être les Français moyens, la petite France, je ne sais pas comment on peut les appeler, mais d'autres gens que ceux qui sont dits informés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est le propos. Il a une phrase, un moment à l'intérieur de son interview qui dit « mais on a tous besoin d'avoir des jardins secrets ». Donc il renvoie à Closer un truc absolument énorme qui va au contraire du même de Closer. Donc en plus, il leur donne la leçon. Et enfin, le troisième point, c'est que il contraint les journalistes politiques à aller sur le terrain de Closer, alors qu'ils avaient toujours dit « j'irai pas ». Et là, ils sont obligés d'aller commenter Closer. C'est un coup magnifique de Mélenchon.
Julien Bayou, c'est un coup magnifique.
Je sais pas, mais effectivement, comme les gens lisent Closer, donc moi, j'ai pas lu cette interview, mais comme les gens lisent Closer, je trouve que c'est pas idiot de la part d'un politique d'aller là où les gens sont. C'est-à-dire que ça sert à rien de les attendre dans un meeting alors que les gens sont pas là. Ou ça sert à rien d'aller les harceler à la sortie du métro si c'est insupportable pour les passants. Obama, je ne compare pas du tout Jean-Luc Mélenchon à Obama, d'ailleurs, voilà. Mais Obama a fait un super coup comme ça sur la défense de Obamacare, c'est-à-dire l'assurance maladie, et les conservateurs essayaient de ringardiser le truc. Et il s'est dit, le seul moyen que j'ai de sauver mon Obamacare, c'est d'aller de faire en sorte que les jeunes s'y inscrivent. Et où sont les jeunes? Et bien, ils regardent les shows télévisés humoristes. Et donc, il s'est incrusté dans le show et il a pleinement joué le jeu, et c'est un moment vraiment très très drôle à voir, et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il y a un besoin d'offres politiques nouvelles. Est-ce que ça passe par Closer? Ça, je sais pas, mais c'est important d'aller là où les gens sont.
Et cette émission dont vous parlez, c'est le Colbert Report d'ailleurs, qui s'est arrêté d'ailleurs cette semaine avec des millions de téléspectateurs qui ont regardé. C'était une très bonne émission,
moment,
voilà, un grand moment en tout cas. Barack Obama, Virginie Petit, est-ce que voilà, au niveau international, est-ce que ça arrive souvent, comme disait Julien Bayou? Alors là, Colbert Report, c'est pas People, mais est-ce que c'est important d'avoir cette image People? Est-ce qu'on peut faire sans finalement?
De moins en moins, visiblement. Apparemment, c'est ça. Ça va beaucoup plus loin, mais on en avait déjà parlé sur cette antenne, mais ça va beaucoup plus loin dans les pays du Nord. Donc la Grande-Bretagne, évidemment, qu'on cite souvent. Mais les Scandinaves aussi, à l'approche des élections, avaient mis en place un système d'émissions où on suivait les candidats qui s'invitaient avec des paniers repas chez leurs possibles, enfin chez les votants en tout cas. Mmh. Et on suivait ça, et donc il y avait un déjeuner, ça fait un petit peu penser aux années 70 ici, mais bon, il y avait un déjeuner voilà, avec les votants. Et on parlait un peu de tout et de rien, et ça permettait de désacraliser, mais enfin en Scandinavie, dans les pays scandinaves, c'est un peu moins, les personnes politiques sont un peu moins sacrées, mais ils étaient plus proches des gens. Mais cela dit, là, Closer, quand on pose la question, est-ce que c'est devenu un grand hebdomadaire politique, il manque quand même une dimension. Il y a effectivement les révélations, il y a la pipolisation, mais il manque quand même toute la dimension analyse et commentaire qui existe dans les tabloïds anglo-saxons.
D'accord,
qui sont quand même dans ce champ politique du commentaire, de l'analyse et de la critique.
Mais alors, vous le disiez, Aymeric Douigi, c'est un bon coup de sa part, mais est-ce que c'est pas un peu hypocrite quand même, parce que d'avoir tapé aussi longtemps sur la presse People
Mon bon monsieur, les gens changent et les médias changent et la façon de parler dans ceci change aussi. Vous prenez juste la dimension Internet des choses, entre ce qui se passait il y a 10 ans et ce qui se passe aujourd'hui, ça a changé. En 2011, on peut comprendre parce qu'évidemment, on n'a pas encore l'affaire Gaillère, on n'a pas encore Philippot, on n'a pas encore tout un tas d'histoires politiques qui est associée à de la pipolisation. Là, on est au sommet, probablement au climax, comme ils disent les Américains, du sujet. Donc peut-être qu'après, ça va redescendre une fois que Mélenchon a parlé. Mais on va le savoir dans quelques semaines.
Jacques Branchet, justement, dans l'interview, il dit que maintenant, tous les politiques vont se ruer après son interview. Ils vont aller voir ce magazine People. Vous pensez que ça peut faire un appel d'air
Ça me paraît assez plausible. Nous, dans GQ, en 2012, on l'avait mis homme politique de l'année. Il était venu, il avait répondu à l'interview, il était venu à la soirée. Après, il avait raconté sur son blog que dans cette soirée qu'il trouvait très chic et très loin de son univers, beaucoup de gens lui avaient dit qu'en fait il votait pour lui. Bref, il s'est rendu compte, peut-être pas avec nous, mais en général, qu'il faut aller dans plein d'endroits où vont pas les autres. Et c'est vrai que les autres ont tendance à le suivre parce que depuis, on n'a pas beaucoup de difficultés à avoir des politiques dans GQ.
Moi, j'ai le souvenir de cette interview catastrophique de, je crois, François Fillon ou une autre de Boutin dans Paris Match où ils posent avec leur conjoint, avec leur femme, et puis ça a l'air superposé.
Fillon.
Qu'est-ce qui est le pire ? Est-ce que c'est exposer sa vie privée dans un magazine People ou dire qu'en fait on va pas l'exposer dans un magazine People ? Moi je trouve que c'est plus intelligent d'aller parler politique et de garder son jardin secret ou pas. D'ailleurs, les politiques sont pas si sacrés que ça. S'ils ont choisi une vie publique, ils retranchent aussi une partie de leur vie privée de facto.
Vous dites pas plus sacré que ça, pourtant ça a été à un moment, on a dit justement les hommes politiques sont peut-être intouchables par rapport, c'est pas des People comme les autres, c'est pas des personnes plutôt comme les autres.
C'est des personnalités qui ont fait le choix de la vie publique. Alors pour le coup, il n'y a pas de raison qu'elle soit plus sacrée que d'autres.
D'accord. Mais alors, est-ce qu'il est aussi un petit peu perdu, Jean-Luc Mélenchon, donc il essaie de se rattraper, non, là où il peut, à des médias
Ça lui permet d'exister là en ce moment, en tout cas. C'est ça. On parlait plus tellement de lui. Là, il est, de fait, il est là, il occupe tout l'espace. Donc oui, c'est un bon coup. C'est ce qu'on disait tout au début.
Il y a un problème, c'est que visiblement, les communistes, le Front de Gauche, tout ça, trouvent que Mélenchon est trop ceci, pas assez cela. Mais c'est quand même le seul connu et le seul, dont Closer. Mais je dirais, il n'y a pas que Closer. Le Monde, le Nouvel Observateur, veut bien écouter Jean-Luc Mélenchon, veut un tout petit peu moins écouter tous les autres leaders du Front de Gauche et du Parti communiste. Et donc, il joue cette carte à fond en disant, regardez, moi, je peux aller dans Closer et vous, déjà, avoir une interview dans un journal politique traditionnel, vous avez un peu du mal.
Et puis, ce qui est dingue, c'est que Closer, depuis quelques semaines, quelques mois, est le journal dans lequel est annoncé la vérité, donc il va là où est la vérité, donc il incarne la vérité. Il y a une espèce de jeu un peu perfide là aussi.
C'est ça. Alors la chose étonnante, c'est que maintenant, Mélenchon, si ça vous super geek, puisqu'il avoue désormais posséder deux consoles de jeux, et il va y passer même ses vacances de Noël. Il a dit que, parce que sur cette antenne ici, il avait bien sûr dit qu'Assassin's Creed, par exemple, n'était pas un jeu tolérable. Donc finalement, maintenant, il essaye vraiment d'aller même vers les jeunes. C'est plutôt assez étonnant, non ?
C'est pas très crédible, moi, je trouve. Mais bon.
Vous ne voyez pas Jean-Luc Mélenchon
non,
jouer à
Assassin's
Creed ?
J'ai du mal à l'imaginer, mais...
Moi, j'ai trouvé sa critique d'Assassin's Creed assez intéressante. C'est qu'à un moment, il dit « c'est un objet culturel qui a un discours politique et on peut avoir un avis dessus ». Tout le monde s'est moqué de lui en disant « est-ce qu'il y connaît quelque chose ?» grosso modo, qui il est pour parler de jeux et tout ça. Moi, je pense qu'effectivement, les jeux sont un objet culturel légitime du fait qu'il y a énormément de gens qui jouent. Et donc, on peut avoir une lecture politique politique d'un jeu vidéo. Là encore, il a fait preuve d'un peu plus de modernité que beaucoup d'autres de nos politiques.
Et il y a encore un autre coup qui est assez amusant, c'est que la semaine dernière, on avait Philippot dans Closer, donc tout le Front National est monté en disant c'est un torchon, c'est un torchon. Et lui, derrière, il ramasse la mise en disant bah non, moi j'y suis, c'est très bien.
Oui, d'accord, donc c'est vraiment
c'est un super coup.
Moi, je pense que c'est vraiment une grave erreur. Je ne sais plus qui a dit qu'on n'avait pas le droit d'acheter ce genre de magazine. Enfin, vu qu'il y a des centaines de milliers de gens qui les lisent, dire ça, c'est une insulte à des tas de gens qui peuvent le lire pour se détendre ou je ne sais pas quoi, ou parce qu'ils croient profondément tout ce qui est écrit. Enfin, en tout cas, c'était vraiment pas très malin de la part du Front National.
Les gens vous disent encore « j'ai lu ». Closer, voici, chez le coiffeur, chez le médecin. Toujours à un moment, il va falloir arrêter. Visiblement, il y a des gens qui l'achètent.
Ça fait beaucoup de rendez-vous chez le coiffeur. Il paraît. Allez, en tout cas, il est 20h15 sur France Info. Le rappel des titres, Emmanuel Langlois.
Avec le début ce soir des vacances de Noël et de fin d'année, les routes sont déjà chargées. C'est orange aujourd'hui et demain. D'après Bison Futé, on a compté jusqu'à 400 km de ralentissement, dont la moitié en Ile-de-France. Les choses rentrent progressivement dans l'ordre ce soir, avant donc une nouvelle journée orange demain. La SNCF, quant à elle, attend 5 millions de voyageurs dans les gares. Et puis à 3 jours de Noël, les salariés d'Amazon en France sont appelés par la CGT à faire grève lundi sur l'ensemble des sites logistiques du géant de la vente en ligne. Le syndicat réclame des hausses de salaire et de meilleures conditions de travail chez Amazon. La réclusion à perpétuité pour l'un des deux accusés de la mort de Jérémy Rose à Toulouse. L'autre est condamné à 20 ans de prison. L'étudiant avait été poignardé à mort, c'était en février 2011, alors qu'il rentrait chez lui après une soirée chez des amis. Un atelier de fabrication de fausses monnaies démantelé à Avignon et à Marseille. Les gendarmes ont saisi près d'un million d'euros de faux billets en coupure de 50 euros. 11 personnes ont été arrêtées. Un homme arrêté à Madrid, il avait foncé sur le siège du parti conservateur au pouvoir en Espagne avec sa voiture chargée de deux bonbonnes de gaz. Par chance, elles n'ont pas explosé. La 19e journée du championnat de France de Ligue 1, c'est la dernière de la phase aller, dernière de l'année également. Lens reçoit Nice, c'est le seul match du jour et c'est tout à l'heure à 20h30.
20h-21h, France Info, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir Virginie Le Petit de Courrier International, Emery Doligier, consultant média, Julien Bayou, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts et Jacques Bronstein de JQ. François Hollande a beau être non-croyant, sûr qu'il doit y avoir un petit cierge quand même bien caché au fin fond de son bureau devant lequel il prie tous les soirs et ça marche puisqu'il vit actuellement... Bon allez, on va dire un petit miracle en remontant légèrement dans les sondages. En effet, au dernier baromètre Ipsos, le président de la République atteint les 25% d'opinion favorable. Alors c'est un Himalaya de sympathie, oui, pour celui qui fin octobre ne récoltait que 12% quand même d'opinion favorable. Immigration, quartier populaire, dîner en ville avec de jeunes députés, il y a comme un petit parfum de campagne et c'est plus proche, comme le ministre du budget, Michel Sapin, ne s'en cache pas.
On a écrit tant de choses lorsqu'il n'était pas encore candidat. On a écrit tant de choses lorsqu'il était candidat. Monsieur 4%, celui qui n'avait que 4% de soutien dans l'opinion. Et au bout du compte, il a été désigné par une primaire et il a été ensuite élu par les Français.
Donc il va se représenter.
Mais j'en sais rien. C'est lui qui décide.
Dans un contexte qui lui appartient. Vous pouvez avoir un souhait.
Et je veux simplement vous dire que celui qui est dans l'exercice de ses responsabilités est naturellement... voué à être le candidat.
Voilà, Michel Sapin sur LCI. Alors, ce qui est intéressant dans ce sondage, c'est que François Hollande regagne surtout à gauche, Julien Bayou. Est-ce que vous avez cette impression voilà, que finalement, François Hollande, qu'on a souvent dit en ce moment, il met le curseur à droite, refait un petit peu de gauche?
Ben, j'attends de voir. J'ai pas particulièrement remarqué, ouais. Clairement. Non, je crois qu'ils agitent un peu des totems, notamment le travail du dimanche. Moi, je suis pour que les salariés aient le droit à un repos, que ce soit le dimanche ou le lundi d'ailleurs, mais aient le droit à un repos. Mais je ne suis pas sûr que ce soit de passer de 5 à 12 qui change foncièrement la donne, ce n'est pas un projet de société.
On l'a vu ces derniers temps, notamment sur l'immigration, revenir sur les quartiers populaires, agiter voilà, des thèmes qui n'avaient pas forcément l'habitude depuis le début du quinquennat. De parler.
Mais le truc, c'est qu'on attend surtout quand même des résultats. Enfin, je veux dire, on peut gloser sur 13, 15, 26, ça reste quand même pas beaucoup d'opinions favorables. Pas du tout beaucoup. Et puis, on est à 5 millions de chômeurs. Et puis, surtout, moi, j'entends toujours ce vivement que la croissance reprenne. Et qu'est-ce qu'on va faire s'il n'y a pas la croissance? Bah, justement, bossons un peu sur le projet de société et n'attendons pas cette croissance. Là, pour le coup, le cierge, il est sur est-ce qu'on aura 0,1, 0,7, 0,8
Oui,
on est dans l'attentisme, en fait.
Ouais. Emery Doligier, justement, vous avez cette impression en ce moment que François Hollande...
Si j'étais à la place de François Hollande, je ne serais jamais à sa place. Je crierais vive Sarkozy. Parce qu'en fait, depuis que Sarkozy est revenu, il remonte. chaque semaine, il prend 3 points, 4 points, 5 points, etc. Donc on est reparti dans une espèce de bagarre entre les deux. Et moi, je me pose la question. Ils ont tous les deux été, alors après, pourcentage plus ou moins 10%, comme dit l'autre, les plus impopulaires de la 5e République. Et je me demande lequel des deux on déteste le plus. Finalement, lequel des deux va être le plus sympa. Et peut-être qu'au bout, celui qui sera le plus sympa arrivera peut-être au deuxième tour.
Ah, d'accord, on est à Jacques Wallenstein. Vous pensez aussi que François Hollande, en ce moment, essaye de reconquérir comme ça l'opinion, de la séduire de nouveau ?
Je pense que François Hollande a toujours voulu se représenter en 2017. Ils veulent tous se représenter, quoi qu'il advienne. Giscard n'avait aucune chance, il y allait quand même. Mitterrand était à moitié mort, il y allait quand même. Ils veulent se représenter. Et François Hollande, là, il voit une petite fenêtre, parce que ça remonte un peu. C'est effectivement, ça remonte un peu, tout basiquement, parce que quand on touche le fond de la piscine, on peut appuyer. Et ça repart un petit peu. Et que les Français sont légitimistes et ils se disent, dans le fond, finalement, on... Je crois que les Français ne détestent pas François Hollande. Ils les agacent, ils en sont déçus. Mais à un moment, ils tombent tellement bas que les gens, on leur dit « Qu'est-ce que vous pensez de François Hollande ?» Et ils disent « Pas autant de mal que ce que j'entends dans les médias. » Mais il ne faut pas penser que c'est non plus l'embellie du siècle, mais que François Hollande veut se représenter. Ça, en tout cas, j'en suis bien sûr.
Virginie Petit, vous pensez aussi que François Hollande, là, on l'a vu, il fait des dîners en ville, il essaye de se rapprocher de l'opinion. Il a même été à Chambord aujourd'hui. Et il a rencontré des visiteurs. Donc il se dit « pourquoi pas, quoi, en fait ?»
Oui, c'est formidable. En fait, il fait pas grand-chose. C'est ce que vous décrivez, c'est quand même un petit peu il agite un peu d'air, mais oui, de toute façon, il faut qu'il fasse feu de tout bois parce qu'il est quand même, c'est ce qu'on disait, il est quand même un peu au fond, donc il a pas tellement le choix. Ce que je trouvais intéressant, moi, dans le sondage, c'est que parmi les personnalités que les Français aimeraient voir avoir plus d'influence dans la vie politique, il y a Emmanuel Macron qui monte de 6 points et qui est à 39%. Et ça, je trouve ça assez drôle, parce que vous disiez...
Des gens de gauche ou des gens de droite ?
C'est exactement ça.
Il y en a deux même qui montent. Il y en a deux qui montent de façon assez dingue. C'est effectivement Emmanuel Macron. Oui. Et Bruno Le Maire. Ils sont à peu près kiff-kiff. Et moi, j'ai l'impression que ces deux-là vont être, peut-être aussi avec Philippot, les marqueurs de la politique en 2015.
Et moi, sur Macron, ça m'a frappé parce que il y a 15 jours, le quotidien Des Morgen, qui est un quotidien belge en langue néerlandaise, a titré Macron le président de l'ombre. Et lui consacrer tout un portrait très élogieux en glorifiant un petit peu son influence et les craintes qu'avait le Conseil des ministres face à ce jeune un peu foufou et qui faisait cavalier seul. Et du coup, là, c'était assez frappant, je trouve, de voir cette espèce de grignotage en fait, des sondages.
C'est ça qui est étonnant, Macron, parce qu'on se dit dans le monde politique, il n'est pas trop aimé. Finalement, les Français s'accrochent à sa personnalité. Ils le trouvent nouveau, ils le trouvent plus frais. Non, Ébru Dogier, vous trouvez ?
36 ans, beau gosse, parlant bien, sans notes, devant tout type de public, en disant on va prendre des risques, on va être beau, on va être plus fort, on donne envie. Il y a un petit côté énergique qu'avait Sarkozy en 2007. Il séduit.
En gros, c'est la prochaine cible de Closer, là, vous êtes en train de m'écrire.
Je ne sais pas, mais c'est possible.
Allez, les infos de France Info, on revient juste après ça.
Il n'y a pas qu'en temps de guerre que des populations doivent être protégées. Il n'y a pas qu'en temps d'occupation que crever de faim n'est plus une métaphore. Nous ne sommes pas dans un pays en guerre. Et pourtant, certains vivent dans des conditions de précarité intolérables. Alors faites un don à la Fondation de l'Armée du Salut, car certains combats méritent une armée.
France Info.
20h23 sur France Info. Le rappel des titres d'Emmanuel Langlois.
Le coup d'envoi des vacances de Noël ce soir. La SNCF s'apprête à accueillir 5 millions de voyageurs dans ses trains et ses gares pendant 2 semaines. La compagnie qui renforce son dispositif avec des trains supplémentaires et plus de personnel. Quant à la route Bison Futé, voie orange pour aujourd'hui et pour demain. Laïcité contre tradition, le tribunal administratif de Montpellier rejette la demande d'un habitant de la commune soutenue par la Ligue des droits de l'homme. Il voulait enlever la crèche de Noël installée dans l'hôtel de ville de Béziers par le maire Robert Ménard, proche du FN. Après 15 années de procédure judiciaire sur fond de querelle familiale, le tribunal correctionnel de Paris lui juge prescrit les faits de contrefaçon reprochés à la petite nièce de Camille Claudel. Elle était poursuivie pour avoir fait réaliser plusieurs tirages de 2 œuvres du sculpteur. Et puis Barack Obama qui donne de la voix dans la polémique autour de The Interview. Le président américain estime que le studio hollywoodien Sony Pictures a commis une erreur en renonçant à la sortie du film. Comédie dénoncée par les auteurs de la cyberattaque dont a été victime la filiale du groupe. La Corée du Nord affirme qu'elle n'est pas derrière cette attaque. Et puis après Thierry Henry, Eric Abidal annonce à son tour l'arrêt de sa carrière, marqué par une finale au Mondial 2006 avec la France et de nombreux titres gagnés avec le Barça. Eric Abidal, âgé de 35 ans.
20h-21h, France Info, les informés. Jean-Mathieu Pernat.
Les informés de France Info continuent à parler de cette légère embellie pour François Hollande. Est-ce que François Hollande aussi a une légère embellie parce qu'il laisse finalement taper Manuel Valls, comme on a pu le voir là justement avec sur l'écologie et notamment Notre-Dame-des-Landes, justement Julien Bayou, est-ce que vous vous attendiez à un moment à ça, à cette déclaration de la part de Manuel Valls sur Notre-Dame-des-Landes qu'il a faite hier à Ouest-France?
Oui, non, il annonce vouloir le démarrage des travaux.
C'est ça.
Alors que Hollande, fin novembre, avait dit un mauvais projet doit être arrêté rapidement. Et là, on a vraiment... Enfin, pour le coup, là, c'est un peu sérieux quand même. C'est un Premier ministre qui demande à la justice administrative de se bouger le cul et de rendre une décision négative pour qu'on puisse démarrer les travaux. Enfin, c'est un coup de force, hein, c'est un coup de pression. Et donc là, c'est extrêmement grave. Et puis par ailleurs, c'est pas vraiment... il faut prendre de la hauteur. On sort de Sivens où les forces de l'ordre ont dramatiquement mal géré la contestation. Contestation née du passage en force, etc. Il y a eu un mort, Rémi Fraisse. Et là, il y a le Premier ministre, les dents serrées, qui dit bon, on va démarrer tout de suite les travaux dès que c'est possible. Mmh. Non, il y a des recours en cours. S'ils sont perdus, ce que je ne pense pas, il y aura des appels, ça va durer et il faut laisser la justice faire son travail.
C'est quand même étonnant cette provocation, non, que fait Manuel Valls en permanence avec les écologistes. On a l'impression qu'il vraiment il veut scinder, quoi, couper, enfin comme ils l'ont fait d'ailleurs depuis.
Je suis pas forcément le mieux placé pour vous raconter ça parce que j'ai mon voisin de droite qui est beaucoup plus au courant que moi.
Mais bien sûr, vous lisez les journaux.
Mais bien sûr, non, mais je vais vous répondre. Ce que vu de ma fenêtre, ce que je vois en termes de communication, c'est que il y en a un qui les attise et qui les énerve. C'est Valls, et il y en a un autre qui est en train de les caresser dans un bon sens, c'est Hollande. Mmh. Est-ce qu'ils se sont répartis les rôles pour arriver à quelque chose? Peut-être. Est-ce qu'ils ne se sont pas répartis les rôles parce que chacun essaie de tirer et vise 2017? Peut-être aussi.
Mais c'est ça qui paraît assez étonnant.
Je vous rappelle que Ségolène Royal avait souhaité bon courage à Manuel Valls, qui était une forme d'humour qu'il n'a pas très bien compris apparemment. Non. Donc ils n'ont pas l'air très carrés entre eux.
Mais il n'a pas du tout apprécié d'ailleurs. Quand un journaliste lui a posé cette question en conférence de presse, il a dit non, mais bon courage. Je souhaite bon courage à toute mon équipe, de toute façon. Ouais. Voilà. Gouvernemental. C'est étonnant, c'est vrai, ce partage des tâches, non, notamment avec les écologistes, parce qu'on sait que François Hollande s'est entendu à un moment quand même avec les écologistes. Là, Manuel Valls...
crois que, en fait, ce que veut faire Hollande, mais enfin bon, là, c'est peut-être... c'est mon impression, ouais. C'est que depuis plusieurs années, le partage des rôles traditionnels qui était que, grosso modo, le président avait une bonne image auprès des Français et que son Premier ministre prenait tout, servait de paratonnerre et se prenait tous les problèmes, ça n'a plus marché. On s'est retrouvé avec Fillon qui était plus, qui plaisait plus aux Français et qui avait des meilleures opinions que Sarko. On s'est retrouvé avec Hollande qui avait héros qui n'existaient pas. Donc forcément, quand on n'était pas content, on n'était pas content de Hollande. Là, il voit que Valls il tient bien sur ses pieds, que il a peur de rien. Effectivement, il va au fight avec les gens avec qui... et il se dit très bien, Valls il va baisser, puis moi je vais monter et ça va peut-être marcher.
C'est une mécanique comme ça. Virginie Petit, vous pensez qu'il y a une répartition comme ça, un peu des rôles ou même inconsciente?
C'est ce qui semble se produire, ouais. Effectivement, où Valls a un peu un côté épouvantail et il attire effectivement tout ce qui peut être les reproches et les conflits. Et du coup, ça cantonne Hollande dans un rôle beaucoup plus serein et paisible. Mais je ne suis même pas sûre qu'en fait, il se soit réparti les rôles. Ça correspond sans doute aussi au caractère de chacun. Enfin, Valls, c'est quand même un peu un guerrier, quoi.
Oui, un sanguin, c'est ça.
Il semblerait que... François Hollande est allé au pot de fin d'année des sénateurs socialistes et il a dit, j'ai noté la phrase, commençons par rassembler ceux qui sont proches de nous, plutôt que ceux qui sont éloignés. On peut le tenter, mais ça n'a jamais marché. En regardant Valls, c'est-à-dire de dire, oui, en fait, tous les appels du pied à la droite. Bon, voilà quoi, je veux dire, clairement, il est là, écoute... Moi, je fais mon truc et puis toi fais le tien.
C'est ça.
À toi de voir, quoi, en gros.
Julien Bayou.
C'est vrai que François Hollande joue l'apaisement, mais c'est de ça dont on a besoin. On n'a pas besoin d'opposer les Français entre eux. Ça, c'est ce qu'a fait Sarkozy et ça n'a pas fait du bien à la France. Valls, il y a quand même un an, a dit qu'il fallait lui démontrer que l'islam était compatible avec la République. Et heureusement, dans son discours sur l'immigration, François Hollande a évacué ça et a même attaqué ceux qui prétendaient ça. Donc il y a clairement un décalage entre les deux. Est-ce que c'est calculé? Je ne sais pas. Mais heureusement que c'est le président de la République qui joue l'apaisement. Maintenant, sur tout ce qui est grand projet inutile imposé, on attend des actes. Parce que mardi... à Center Park, c'est à Roibon. C'est un projet absolument délirant où on va mettre 300 millions de fonds publics uniquement pour les petits profits de Pierre et Vacances et détruire la biodiversité au passage. le mauvais projet doit être arrêté.
Oui, c'est ça. Donc ça va continuer. En fait, on le sait, puisqu'il y a à peu près une centaine de projets contestés en France. À les informer de France Info. On revient pour le journal de 20h30 juste après ça.
Écoutez bien et ouvrez grand vos yeux.
Redécouvrez Pierre et le loup de Prokofiev dans un livre CD raconté par François Morel.
Pierre, le loup, le grand-père, les chasseurs...
Ils sont tous là.
Et même l'Orchestre National de France.
Un livre CD ludique avec des découpes et des grandes pages étonnantes. Pierre et le loup, un livre CD Radio France.
Super !
France Info.
...20h30 sur France Info, l'heure du journal de Frédéric Benyada, bonsoir.
Bonsoir, le coup d'envoi ce soir des vacances de Noël. Bison futé, voie orange sur les routes dans le sens des départs. D'importantes difficultés ce soir aux sorties des grandes villes. Près de 6 millions de voyageurs attendus dans les aéroports parisiens ce week-end. Très forte affluence également dans les gares. 12 000 trains vont circuler pendant ces fêtes. Un appel à la grève chez EasyJet. Les deux syndicats d'hôtesses et stewards de la compagnie cesseront le travail les 25 et 26 décembre prochains. Ils réclament une meilleure gestion des plannings et une plus grande participation aux bénéfices. Aucun vol n'étant programmé le jour de Noël, le mouvement social ne devrait avoir que très peu de répercussions sur le trafic le lendemain. Le débat sur la légalisation du cannabis relancé par un récent rapport de Terra Nova publié dans le journal Le Monde. Le groupe de réflexion proche du Parti Socialiste estime que la répression est un échec et que la légalisation du cannabis et la création d'une filière de production et de vente sous monopole public pourraient rapporter à l'État 1,8 milliard. Sous la pression de la Cour européenne des droits de l'homme, François Hollande a demandé au ministère de la Défense et de l'Intérieur de préparer une loi accordant aux militaires le droit d'association professionnelle. C'est une petite révolution pour l'armée, mais il ne s'agit en aucun cas d'un droit syndical, pas question de droit de grève et de manifestation. Laïcité contre tradition, le tribunal administratif de Montpellier, saisi en référé, a rejeté aujourd'hui la demande d'enlever la crèche de Noël installée dans l'hôtel de ville de Béziers. Cette demande d'enlèvement avait été formulée par la Ligue des droits de l'homme. Les plaignants considéraient que cette crèche était une atteinte à la laïcité car elle symbolise la naissance du Christ, un événement au cœur de la religion chrétienne. Satisfaction du maire proche du Front National, Robert Ménard. À Melun, dans une affaire similaire, le tribunal administratif rendra sa décision lundi prochain. On joue ce soir un match avancé de la 19e journée du championnat de France de football de Ligue 1. Lens, avant-dernier du classement, reçoit Nice au stade Bollaert. Emmanuel Boin.
En effet, ça vient de commencer il y a une minute, un peu moins de deux minutes, ici au stade de la Licorne à Amiens. Entre, vous le disiez, l'équipe de Lens qui est 19e et Nice 11e. L'objectif pour Lens, finir la saison en beauté devant son public en obtenant les 3 points. L'objectif d'Antoine Camboiré, eh bien, c'est d'avoir les 19 points avant la trêve hivernale. 0-0 entre Lens et Nice, 2 minutes de jeu.
Et puis l'heure de la retraite pour Éric Abidal à 35 ans, l'ancien international français met un terme à sa carrière professionnelle pour raisons personnelles. Une carrière marquée par les sommets d'une finale au Mondial 2006, mais aussi de nombreux titres gagnés avec le Barça et sa rémission après une grève du foie il y a 2 ans. Enfin, les places financières. La Bourse de Paris termine la semaine sur une baisse de 0,18% à 4241 points.
Merci Frédéric Benyada. Nous, on file à Météo France.
France Info Météo avec Maison France Confort, constructeur national de maisons depuis 5 générations. Rendez-vous dans une de nos 340 agences ou sur maisonfrancecomfort.fr.
Jean-Michel Golinski.
Léger déclin des températures ce week-end, mais dans l'ensemble, elles resteront encore au-dessus des moyennes et partout éloignées des gelées matinales en pleine. Demain, des Alpes du Sud au bassin méditerranéen et sur la Corse, le soleil va briller toute la journée, mais le Mistral et la Tramontane seront très turbulents. Du sud-ouest aux Charentes et du Massif central à Rhône-Alpes, après quelques pluies matinales, le temps va bien s'éclaircir. Plus au nord, les brouillards seront suivis d'un ciel variable, mais avec un vent très désagréable à proximité des côtes. Dimanche, vous aurez une très belle journée du sud-ouest au Cantal et de l'est du Rhône au bord de la Méditerranée, mais sur les deux tiers nord, là le temps sera quand même beaucoup plus gris et même parfois maussade l'après-midi au nord de la Seine. À partir de vendredi prochain, les températures vont commencer à baisser. Autrement dit, ce sera plutôt un Noël 2014 au balcon, mais souvent sous la pluie la semaine prochaine, du nord de la Loire au quart nord-est. Plus au sud, le temps sera nettement plus ensoleillé, mais à partir de vendredi, l'air plus frais et les averses vont gagner tout l'Hexagone, apportant un peu de neige sur tous les massifs.
Il n'y a pas qu'en temps de guerre que des populations doivent être protégées. Il n'y a pas qu'en temps d'occupation que crever de faim n'est plus une métaphore. Nous ne sommes pas dans un pays en guerre. Et pourtant, certains vivent dans des conditions de précarité intolérables. Alors faites un don à la Fondation de l'Armée du Salut, car certains combats méritent une armée.
France Info. 20h-21h, France Info. Les informés, Jean-Mathieu Pernat.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés, avec ce soir Virginie Le Petit de Courrier International, consultant média Emery Deligier, Julien Bayou, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts et Jacques Bronstein de GQ. Si votre enfant fume du cannabis, ne le punissez pas, il travaille pour l'économie française. Tel sera peut-être le message de communication du gouvernement français lorsqu'il voudra légaliser le cannabis. Une étude du think tank Terra Nova a analysé l'hypothèse d'une légalisation de l'herbe qui rend nigo et ça pourrait bien aider les finances de notre pays. Mais avant ça, on parle piratage informatique. Depuis le choix de Sony Pictures de ne pas sortir d'Interview, une comédie dans laquelle la CIA demande à deux journalistes d'assassiner Kim Jong-un, le leader nord-coréen, nous sommes rentrés dans une nouvelle ère puisque tout a commencé fin novembre quand des hackers ont infiltré les serveurs informatiques du studio et sorti des informations confidentielles. Et apparemment, ça va durer longtemps selon le cyber-expert Nicolas Arpagian.
D'habitude, c'est l'opération de chantage qui vise des sociétés commerciales à qui un pirate envoie un message en lui signalant qu'il a pris le contrôle de ses données et que sans le paiement d'une rançon, il va rendre disponibles ses données sur le marché. Là, il y a une dimension politique. C'est tout à fait ce type de cyberattaque, des armes qui sont dans l'arsenal des États qui souhaitent porter des coups à un adversaire.
Voilà, alors c'était le cyber-expert Nicolas Arpagian. Alors, même si ce soir, Barack Obama a déclaré que Sony Pictures devait quand même sortir le film, il y a George Clooney également qui a fait une pétition qui a dit que personne n'avait aidé finalement Sony Pictures dans cette histoire. Ils se sont retrouvés un peu seuls.
Ils ont mesuré aussi les failles de leur système. Et puis jusque-là aussi, ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis, moi je me souviens d'un papier de The Atlantic il y a un an, prenez la Corée du Nord, enfin les États-Unis, vraiment pour un bouffon. Enfin, Kim Jong-un, c'était un clown, c'est des méchants de pacotille et tout. Et là, il y a une espèce de prise de conscience malgré tout que, au niveau piratage, le FBI craint de plus en plus les hackers nord-coréens et qu'il va se passer des choses. Donc il y a une espèce de petit retournement. Mais effectivement, la presse américaine et les politiques américains ont traité Sony de lâche avec un manque de compassion quand même assez flagrant.
Jacques Bronstein, cette histoire paraît assez incroyable parce que forcément, on sait qu'il y a des administrations qui sont régulièrement attaquées par des pirates. Mais là, ça touche quand même la liberté de la création, la liberté artistique.
C'est ça qui est hallucinant quand même. On parle quand même d'un film. Et alors, en plus, le film, c'est pas Salo ou les 120 jours de Sodome. C'est une comédie, une pochade. Enfin, moi, j'adore les films de Seth Rogen. Mais enfin, à part se battre les côtes, il n'y a pas vraiment... Et puis, le principe que dans une comédie ou dans un film... on s'attaque au président d'ici ou de là. Enfin, je veux dire, dans tous les James Bond, on essaye de tuer le président des États-Unis ou la reine d'Angleterre. C'est quand même le béaba de l'entertainment occidental. Et Sony a une réaction, mais complètement idiote, qui est « Ah bah, il y a un problème, on va pas sortir le film. » Je trouve que Obama et George Clooney ont évidemment raison. Et en même temps, moi, ce qui m'inquiète, c'est que il y a une espèce de décalage. Je trouve que... On ne parle pas forcément des bonnes choses. Il y a quand même vraiment un problème de sécurité informatique, vraiment un problème qui devrait être évoqué sérieusement plutôt que de se poser la question de savoir si ce film donne une bonne image ou une mauvaise image de la Corée.
Virginie Petit.
Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que vu de chez nous, c'est une pochade, effectivement, et ce n'est pas très grave. Moi, j'ai relu là des choses sur des réfugiés nord-coréens qui racontent un peu ce qui se passe. Il y a un petit marché noir du DVD en Corée du Nord. Et visiblement, certains, la première fois qu'ils ont vu Titanic, ils se sont demandé si les réalisateurs allaient être exécutés, et les acteurs aussi. Parce que raconter une histoire qui parle d'une histoire d'amour entre un homme et une femme, de liberté et de transgresser les règles, c'est passible de la peine de mort. Et donc, à la fois, pour nous, effectivement, tout ça n'est pas très grave et on devrait le maintenir. Pour Pyongyang, même s'ils se défendent d'avoir commandité tout ça, c'est très sérieux.
Aimerait Deligier.
Il y a plusieurs choses. D'abord, la première, c'est est-ce qu'on est sûr que ça vient de la Corée?
Alors, Washington accuse ce soir, officiellement.
Moi, j'en sais absolument rien. Ok, ça vise un film qui traite d'un peu de bouffon, l'autre bouffon qui dirige la Corée. Mais est-ce que ça vient de la Corée? C'est pas sûr. Ça, c'est ma première question. Et si jamais ça venait de la Corée, à ce moment-là, on n'aurait plus peur de leurs armes militaires, mais on pourrait avoir peur de l'Internet. Okay. La deuxième chose qui me pose question, c'est est-ce que finalement cette attaque ne repositionne pas l'ensemble de l'industrie culturelle ? Parce que maintenant qu'il y a une autre façon de générer de la connaissance et de la médiatisation de la culture, est-ce que le cinéma a encore sa place aujourd'hui alors qu'on peut le voir autrement ? Et enfin, le troisième point, et j'aurais fini, parce que je vois votre doigt qui me pousse vers autre chose. Ce qui est amusant, c'est qu'on a ce fait-là avec Sony, et puis le même jour, il y a Madonna qui pleure sur tous les réseaux sociaux en disant qu'on a violé son patrimoine parce qu'il y a des chansons de son album qui devrait sortir en 2015 qui ont été consultées. Je suis désolé, mais quand moi j'ai envie de que rien ne se sache, je ne l'écris pas.
Oui, c'est ça. Julien Bayou.
Oui, alors si y a des chansons de Madonna confutées et qu'elle ne va pas les faire finalement, c'est peut-être des mélomanes en fait. Non. Au-delà de la plaisanterie, c'est hyper inquiétant parce que moi je pensais Sony beaucoup, beaucoup, beaucoup plus solide.
Bah, bien sûr.
Et beaucoup plus introduit auprès de je ne sais pas qui aux États-Unis pour être protégé. Donc est-ce que c'est la Corée du Nord ? Est-ce que c'est le Sénégal ? Je ne sais pas. Pas fastoche à trouver, parce qu'évidemment, mais ça, c'est extrêmement inquiétant sur les données qui peuvent circuler. Plus près de chez nous, c'est Orange qui s'est fait plusieurs fois hacker et des millions d'abonnés.
800 000.
Mais à chaque fois, je crois qu'au total, il y en a plusieurs millions. Et on voit bien la fragilité, je ne sais pas, vos parents, vos amis, mais moi, quand j'envoie des mails, on peut aussi se faire hacker. Et donc, il y a à la fois éduquer ses amis pour éviter qu'ils cliquent sur n'importe quoi, mais il y a aussi une question de tout simplement d'or de ces données qui est vraiment à la portée de main pour pas mal de gens.
Mais c'est ça aussi, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'avec ça, même si on sait qu'on est attaqué comme Orange, là on a pris conscience, alors le terme est très fort de cyberguerre, que ça existe véritablement. Enfin, il y a vraiment un combat qui se mène entre des hackers qui ont finalement une puissance très forte par rapport à des États.
Mais en fait, on le sait, on va toujours s'intéresser à autre chose. Malheureusement, moi, ça m'avait beaucoup frappé il y a quelques mois quand les photos dénudées de jeunes actrices hollywoodiennes, tout le monde n'a parlé que de l'aspect finalement célébrité, vie privée, tout ça. C'était quand même hallucinant que un géant de l'informatique comme Apple se fasse hacker toutes les photos de célébrités dans les téléphones Apple et que quand on demande à Apple c'est quoi le problème, il dit non, techniquement c'est bon. Sony, Apple, Orange devraient un peu bosser sur la high-tech, c'est censé être leur métier.
Ça, pour le coup, c'est la violation de la vie privée. Non, mais c'est-à-dire que chaque consommateur est vraiment à poil, pour le coup.
Le président de la commission des lois, dont le nom m'échappe, mais vous allez m'aider, a dit sur une radio concurrente hier matin que quand il partait en Chine, il ne prenait pas son ordinateur parce qu'il savait que quand il allait en Chine, il allait se faire pirater toutes ses données. Donc, la cyberattaque existe. Elle n'est pas récente, ça fait au moins 15 à 20 ans qu'elle existe. Je vous rappelle qu'Internet est né d'un truc qui s'appelait ARPANET et c'était pour les militaires. Donc la cyberattaque, ça existe.
Ça existe depuis le début. Virginie Petit.
Oui, mais c'est tous les jours. Enfin, tous les jours, les entreprises se font attaquer. Tous les jours, il y a des failles différentes du vol de données ou alors simplement le fait de saturer totalement le serveur pour que plus rien ne fonctionne. La cyberguerre, elle existe. Il y a plein d'armes possibles et elle est constante. Le problème, c'est que l'ennemi, c'est un métamorphe. On ne sait pas où il est, on ne sait pas qui il est. Et du coup, les moyens, c'est pour ça aussi que les entreprises ripostent comme ça. Elles, ce qu'elles connaissent, c'est des moyens techniques pour les combattre. Elles n'arrivent pas en fait, à penser autrement que comme ça.
Est-ce que quand on parle Washington qui accuse ce soir la Corée du Nord, est-ce que finalement, ce n'est pas l'ennemi idéal ? On voit que c'est une sorte de méchant dans James Bond quand on voit.
Retrouver des hackers, c'est compliqué. Dire que la Corée du Nord n'a pas le même système que nous et que nous ne sommes pas d'accord avec elle, c'est beaucoup plus simple.
Il y a quand même plusieurs rapports qui pointaient le fait que justement les hackers nord-coréens augmentaient vraiment en technicité et sur leurs attaques. Et ça, c'est pas récent, c'est pas ici avec Sony, c'est quand même depuis quelques mois que ça monte et que le FBI, je crois en l'occurrence, redoute pas mal de choses. Donc est-ce que ce sont eux ? Je sais pas, mais visiblement ils ont les moyens de le faire.
Et donc il suffit finalement d'un film où on se moque du grand leader, c'est ça, coréen, nord-coréen, pour faire tout sauter. En fait, c'est ça qui fait peur, je pense aussi.
Visiblement, puis ça va continuer parce que je crois que comment s'appelle-t-il le fondateur de la Human Rights Foundation, Thor Halvorsen, j'espère que je n'ai pas écorché son nom. Donc, ce monsieur-là, qui est un activiste qui essaie justement de promouvoir la liberté d'expression et les droits de l'homme, prévoit de lâcher plein de ballons avec des DVD, des copies de The Interview depuis la Corée du Sud vers la Corée du Nord. Il fait ça depuis des années. Il alimente le marché noir en DVD. Et là, il veut inonder la Corée du Nord de copies de The Interview. Donc, je pense continuer à alimenter la guerre. Quoi.
Ce film The Interview est devenu culte. Hein, personne ne l'a vu, mais c'est déjà culte. Tout le monde a envie de le voir.
Ah oui.
Mais alors, à côté de ça, Steve Carell, qui devait faire un film aussi qui s'intitule Pyongyang, d'après une bande dessinée de Guy Delisle, finalement, son projet a aussi avorté. Donc, c'est-à-dire que maintenant, tout le monde a peur. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si ça vient de la Corée du Nord, mais tout le monde a peur de faire des projets sur la Corée du Nord. Donc là, sur la création artistique, c'est quand même dramatique. L'impact qu'il peut avoir sur même Hollywood.
C'est tout à fait atterrant de s'apercevoir qu'effectivement... pour cette raison-là, à un moment, on va dire « Ah bah oui, non mais la Corée du Nord, c'est un petit peu compliqué. » Je veux dire, il faut qu'on... Ce qui se passe, c'est simple, c'est que pour des pays comme la Corée du Nord, comme pour les fondamentalistes islamistes, un film est forcément fait avec l'accord et la volonté du gouvernement américain-français. Nous, notre système, c'est pas ça, c'est que les gens font des films librement. Il faut en être fier, le défendre, se battre. Et si Sony Pictures le fait pas, j'espère que Barack Obama va un peu le faire. Mais en même temps, il va pas produire des films sur la Corée du Nord non plus, il a autre chose à faire.
Non, mais en tout cas, Emery Dohigi.
Mais il y a un truc que je comprends pas dans l'histoire de Sony, c'est que pour avoir parlé avec des gens de Gaumont, ils m'ont expliqué comment est-ce qu'on faisait les films et comment est-ce qu'on les préparait. En fait, ils envoient des versions très dégradées à peu près partout pour pouvoir avoir travaillé sur la post-production. Et au final, ils font ça dans des studios hyper sécurisés, hyper fermés, avec aucune connexion vers l'extérieur, pour avoir le produit final. Là, il y a peut-être une défaillance réelle de Sony ou peut-être de l'intérieur de Sony.
Voilà, ce qui leur a fait peur, en fait, c'est ces menaces d'attentats qu'il pouvait y avoir dans les cinémas. Donc, c'est vraiment pour cela. En tout cas, sûrement que The Interview sera donc un film culte, sûrement qu'on verra bientôt sur Internet, peut-être en Corée du Nord d'ailleurs, où on veut peut-être un jour le projeter. Mais pour l'instant, il est 20h45 sur France Info. Le rappel des titres, Frédéric Beignada.
On joue ce soir un match avancé de la 19e journée du championnat de France de football de Ligue 1. Lens, avant-dernier du classement, reçoit Nice. Où en est-on, Emmanuel Bouin?
0-0, quart d'heure de jeu entre deux équipes qui jouent au football et qui ont envie de s'imposer ce soir, mais toujours pas de but. 15 minutes de jeu, 0-0 entre Lens et Nice.
Emmanuel Bouin, le début des vacances de Noël, Bison Futé voit orange sur les routes dans le sens des départs. Des difficultés ce soir aux sorties des grandes villes. À 3 jours de Noël, les salariés d'Amazon sont appelés à la grève lundi sur l'ensemble des sites logistiques du géant de la vente en ligne. Les syndicats réclament des hausses de salaire et de meilleures conditions de travail. Le débat sur la légalisation du cannabis relancé par un récent rapport de Terra Nova. Sa légalisation et la création d'une filière de production et de vente sous monopole public pourraient rapporter à l'État 1,8 milliard d'euros. Et puis une petite révolution pour l'armée. François Hollande a demandé au ministère de la Défense et de l'Intérieur de préparer une loi accordant aux militaires le droit d'association professionnelle.
France Info. 20h-21h, France Info, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir Virginie Petit de Cour International, le consultant média Emery Dohigi, Julien Bayou, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts et Jacques Brandstein de JQ. Dans le futur, le vendredi soir, peut-être à cette heure-ci, vous vous battrez peut-être pour avoir la meilleure table au cannabistrot de la ville, les coffee shops à la française. En effet, le think tank Terra Nova vient d'étudier l'impact sur l'économie française d'une légalisation du cannabis et ça rapporterait près de 2 milliards d'euros à l'État en temps de crise. Ça peut faire réfléchir, même si le cannabis embrume l'esprit. Et tout est prévu, notamment face au risque d'explosion de la consommation. Thierry Pech, directeur général de Terra Nova.
On met le prix assez haut pour avoir des recettes, bien sûr, mais aussi pour limiter la consommation. En gros, si on met le prix à 8,40 euros le gramme, alors c'est une projection, les modèles, bien sûr, sont tous plus ou moins approximatifs, mais si on fait ça, eh bien, le nombre de consommateurs n'augmente pas. Si on met un peu plus haut, il diminue. Donc, une bonne stratégie serait de commencer avec un prix bas et très vite de le monter, de manière à évincer tout de suite le marché noir et ensuite à contrôler davantage la consommation de cannabis.
Voilà Thierry Peck de Terra Nova. Alors Terra Nova commence son rapport en disant que la lutte contre le cannabis est un échec et coûte 500 millions par an. Donc finalement, la légalisation devrait s'imposer peut-être un jour en France, Jacques Brandstein.
Écoutez, ça fait 30 ans qu'il y a des rapports venant de différentes sources de plus en plus sérieuses qui remarquent un fait qui semble être vrai, c'est que la France a la législation la plus répressive d'Occident en matière de cannabis et c'est le pays où il y a le plus d'ados qui fument. Donc visiblement, ça marche pas. Mais moi, ce qui me frappe cette fois, parce que des rapports comme ça, ça fait la une des news magazines, je vous dis depuis 30 ans, ce qui me frappe cette fois, c'est qu'on parle plus, comme on l'a toujours fait, de morale, de santé. on parle d'argent et d'emploi.
D'économie,
on dit ça va rapporter 2 milliards, on vous dit ça va créer 13 000 emplois. En fait, 2 milliards, 13 000 emplois, il faut quand même se rappeler que ce n'est pas des chiffres énormes.
Oui, non,
c'est bien, hein, mais bon, c'est pas. Mais de toute façon, mais là, vraiment, le bruit médiatique a basculé sur autre chose. Faisabilité, rapport inconvénient. On n'est plus dans une question de morale ou de santé. On est passé dans autre chose. Et d'ailleurs, on le voit, là, pendant qu'on parle dans ce studio, on voit sur les écrans les chaînes info. Mmh. Et on vous montre comment on fabrique une cigarette de cannabis, très longuement. Bon, enfin, comme on roule un joint, on va parler normalement. Et bref, il y a vraiment une digue qui a explosé tout à coup. On parle plus de la même chose. C'est plus une question de morale. C'est devenu une question de bon, on le fait, on le fait pas. Ça rapporte quoi? Ça coûte quoi?
Finalement, l'économie, ça a permis ce débat, finalement, de lancer ce débat en France qui paraît impossible. C'est vrai qu'on est très rigide en France là-dessus, sur ce débat. Hein,
Bayou. Pour les écolos, ça fait 30 ans qu'ils portent cette proposition et, par pragmatisme. Et évidemment, là, la question passe directement dans le champ idéologie. Là, vous voulez faire fumer les enfants. Alors, déjà, non, il ne s'agit pas de faire fumer les enfants. Ça serait interdit, j'imagine,
bien sûr,
avant 16 ou 18 ans, comme le tabac ou l'alcool. Mais oui, clairement, c'est une question de santé publique. C'est-à-dire, ça foire depuis 30 ou 40 ans. Les États-Unis amorcent un changement. L'Indiana,
Colorado.
Une vingtaine d'États.
Une vingtaine d'États déjà qui tirent des recettes et qui permettent, faut le dire aussi, parce que la consommation, en gros, quand elle est encadrée par l'État, c'est de la meilleure qualité. Alors que ce que vous pouvez trouver chez le petit dealer, c'est les trucs coupés où vous avez pas mal de produits toxiques et vous pouvez vous fracasser la santé. Et puis surtout, c'est la question de la sécurité. Et quand vous avez des policiers qui passent leur temps qui mettent 4 heures pour contrôler un gamin qui a une barrette de shit, mais ils ne travaillent pas sur autre chose. Et puis ça alimente tous les marchés noirs qu'on connaît.
C'est ça, Emery d'Oligier, c'est oui. Donc le débat est enfin posé, pensé par Terra Nova.
Et je ne sais pas si le débat est posé, mais ce qui est toujours amusant dans ces annonces, c'est de déconstruire la communication qu'il y a autour de ces annonces. On a Terra Nova, qui est donc un think tank du Parti Socialiste,
de gauche, voilà,
très proche de François Hollande, qui va contre une des postures de François Hollande, qui a toujours dit « moi je suis contre la légalisation ». Et là, qui rentre par le champ économique, donc qui n'est plus dans le champ de la morale, effectivement, comme on l'a dit il y a 2 secondes, mais qui rentre dans le champ économique, qui est un problème pour François Hollande. Donc c'est peut-être pour lui une façon de pouvoir re-rentrer sur le terrain en disant « oui, j'étais toujours contre sur le machin, mais d'un point de vue économique, ça se tient, donc peut-être qu'on peut relancer le débat ». Et là, on ressent encore un petit peu un gratouillis de François Hollande et de Terra Nova en association, je ne sais pas, j'émets une hypothèse, pour aller chercher les jeunes, peut-être pour aller chercher un peu les verts aussi. Ouais. Il y a peut-être un petit quelque chose là derrière.
Vous le voyez, François Hollande, légaliser le cannabis?
Je ne sais pas si je le vois, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que tous les anciens ministres de l'Intérieur le disent. La solution, le vrai pragmatisme, c'est la légalisation.
Dont Daniel Vaillant.
Et le vrai laxisme, c'est le statu quo. Voilà, c'est Daniel Vaillant qui dit
exactement.
Ça. Emmanuel Valls, je pense qu'en privé, il doit réfléchir à la légalisation comme une solution.
Juste une chose,
il le dira jamais,
juste une chose, ce qui est assez, ce qui est assez étonnant, c'est que Daniel Vaillant, qui s'était prononcé pour un encadrement justement du cannabis, aujourd'hui, beaucoup de médias ont essayé de le joindre, il ne veut plus répondre. Donc ça veut dire que sur la question...
Peut-être en vacances.
Oui, je ne pense pas, c'est ce soir, on va dire. Donc, on a eu toute la journée. Est-ce que ça veut dire aussi que sur la question, c'est un peu tendu, que ça soit à gauche en ce moment, même si les écologistes sont plutôt pour la légalisation? Est-ce que sur le Parti Socialiste, justement, ça divise encore? On sent que c'est...
Il faut leur demander.
Oui, c'est ça. Non, d'accord. Peut-être que si vous les croisez. Virginie Petit, on a vu en ce moment qu'il y a une tendance dans le monde, notamment aux États-Unis. Pourquoi finalement les Américains, pourquoi il y a des États américains qui se sont dit, tiens, on va légaliser, c'est un problème économique aussi?
C'est un problème économique, c'est un problème écologique aussi. Hein. En Californie, les plantations sauvages de marijuana, c'est des ravages sur l'environnement. Et puis, ils sont pragmatiques, ils ont constaté qu'ils l'avaient perdu, la guerre contre la drogue. Donc, petit à petit, alors c'est pas tous les États, hein. Les États s'y mettent. Le Colorado là, a eu une plainte aujourd'hui de ses voisins qui l'accusent justement de fournir le marché. Et aux États-Unis, ce qui se passe, c'est que c'est quand même assez compliqué parce qu'on est dans un État fédéral. Donc chaque État légalise ou pas. Le problème, après, c'est que, par exemple, au niveau de la finance, c'est l'État fédéral qui décide. Donc jusqu'à une période récente, les cannabiculteurs légaux ne pouvaient pas se faire financer par des banques.
D'accord.
Ils étaient obligés de tout financer en argent liquide. Enfin, ils n'avaient plus d'eau non plus parce que les sociétés de distribution de l'eau ne voulaient pas leur en fournir parce que c'était fournir la drogue. Enfin, c'était très, très compliqué. Donc ils ont eu beaucoup de difficultés à être rentables. Puis ils ont eu beaucoup de difficultés aussi parce que leur main-d'œuvre passait de quelque chose d'illégal à quelque chose de légal, donc ça veut dire respecter des horaires, se déclarer, etc. Ils racontent tous que ça a été un petit peu difficile.
Ça a été un peu compliqué, mais forcément, quand on dit aussi légalisation, on dit aussi tout ce qu'il peut y avoir. Ça veut dire, comme peut le connaître les Pays-Bas, le narcotourisme, ça peut connaître tout ce genre de choses. Est-ce que ça peut peser aussi dans la balance?
Ça pèse dans le PIB en tout cas.
Voilà, c'est ça. Oui,
c'est un argument économique. C'est l'argument économique qui est le plus solide et contre lequel on peut rien dire.
On ne peut strictement rien dire.
Il faut surtout mettre en balance avec les risques du statu quo. Hein. Je parle vraiment de quartiers populaires où les gens n'osent plus descendre parce que les portes sont tenues. Il y a même quand même des appartements qui sont loués et on paye les mamans pour garder les barrettes au cas où les flics descendent. Enfin, ça crée une ambiance complètement dingue de Far West dans les quartiers populaires. Mmh. Et donc ça, il faut en sortir.
Mmh. Allez, 20h54 sur France Info. Les titres, Frédéric Beignada.
La réclusion criminelle à perpétuité pour l'un des deux accusés de la mort de Jérémy Rose à Toulouse. L'autre est condamné à 20 ans de prison. L'étudiant avait été poignardé à mort en février 2011 après avoir refusé de se laisser détrousser au retour d'une soirée. Le début des vacances de Noël, Bison Futé voie orange sur les routes. Dans le sens des départs, on a compté en début de soirée jusqu'à 300 km de bouchons cumulés en Ile-de-France. À 3 jours de Noël, les salariés d'Amazon sont appelés à la grève lundi sur l'ensemble des sites logistiques du géant de la vente en ligne. Le syndicat réclame des hausses de salaire et de meilleures conditions de travail. Et puis le débat sur la légalisation du cannabis relancé par un récent rapport de Terra Nova, sa légalisation et la création d'une filière de production et de vente sous monopole public pourrait rapporter à l'État 1,8 milliard d'euros.
20h-21h, France Info, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, les 5 dernières minutes. Et justement, nous sommes en train de parler de ce rapport de Terra Nova sur la légalisation du cannabis. Alors, on le disait tout à l'heure à propos de PIB. Depuis le 1er septembre, il est possible pour les États européens de comptabiliser la prostitution et le commerce de la drogue dans le PIB. Alors, on ne sait pas si on doit s'en amuser ou pas, mais le Royaume-Uni, lui, n'a pas hésité tout de suite à l'inclure. Finalement, la France ne veut pas.
Non, apparemment,
petit.
Non, je crois pas, mais ouais. Le Royaume-Uni s'en est quand même mordu les doigts, oui. Puisque c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés quand même à payer à l'Union européenne, parce que leur PIB avait largement augmenté avec l'intégration de la drogue et de la prostitution. Donc je sais pas si c'est vraiment une bonne chose. Quoi.
Oui, mais pourtant, on peut dire que c'est vrai, finalement, ça fournit de l'argent. Il y a un commerce qui se passe.
Les prostituées sont même imposées.
Oui.
Aujourd'hui, elles payent l'impôt.
Donc finalement, ça serait logique qu'on rentre ça dans le PIB, quoi.
Non, en tout cas, le fait que les prostituées payent l'impôt, ça veut dire que l'État est proxénète, mais cela vaut pas. Ouais. Ça, c'est important. L'Angleterre a un vrai problème de toxicomanie et d'addiction aux drogues dures, pour le coup, et donc il y a un problème de prévention. Je reviens sur la question de la légalisation du cannabis. C'est aussi un moyen de mieux contrôler et de mieux prévenir l'addiction. Paradoxalement, peut-être contre-intuitivement, mais c'est vrai.
Virginie Petit.
Oui, et si la France voulait avoir un coup d'avance, elle s'intéresserait aussi à d'autres substances et les nouvelles substances psychoactives notamment. Donc tout ce qui est en fait chimique et qui se développe et qui change de forme, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une molécule est identifiée par les autorités, les chimistes en synthétisent une autre. Et il y a des États, la Nouvelle-Zélande notamment, qui fait des expérimentations sur le sujet, qui demandent aux gens plutôt de venir déclarer les substances et tester leurs effets pour les légaliser, avant qu'on tombe... voilà. Et j'y pensais parce que le Royaume-Uni a vraiment un problème avec ces nouvelles substances psychoactives. Elles sont pas mal présentes sur leur territoire. Et eux ont choisi de lutter par la coercition et pas comme la Nouvelle-Zélande. Donc il y a des questions à se poser là-dessus parce que c'est là qu'est l'avenir de la drogue et c'est d'après les derniers rapports, c'est là qu'est le marché du futur sur les drogues. Donc,
alors justement, on le voit quand même en Europe en ce moment, il y a un petit effet, on voit certains pays dépénalisent, ne légalisent pas mais dépénalisent ou autorisent. C'est vrai que la France a toujours, vous l'avez dit tout à l'heure Jacques Bronstein, ça a toujours été très très rigide et ça depuis longtemps quand même.
Grosso modo, il y a un consensus qui est que si vous êtes pour la dépénalisation, c'est que vous êtes un gros fumeur de pétard, donc personne dans la classe politique. Les Verts ont eu beaucoup à en souffrir, puisqu'à chaque fois qu'ils ont présenté quelque chose, on a dit oui, mais enfin bon, les Verts. Et on en est encore plus ou moins là. On a l'impression qu'on va peut-être en sortir, mais c'est même pas certain. On l'a très bien vu quand il y a eu les primaires du Parti Socialiste, où Hollande, Montebourg, enfin ça, ils ont tous les rapports, ils savent très très bien où est-ce qu'on en est. C'était à celui qui était le plus anti-pétard. Alors on s'est retrouvé avec Jean-Michel Baylet qui a dit non, mais quand même, sérieusement, les gens se sont dit, il est bizarre ce type. Pour l'instant, on en est là politiquement. Peut-être que ce rapport, peut-être que ce débat va faire un peu avancer les choses. Mais enfin, quand on voit ce qui est arrivé à Vincent Peillon, quand il a juste dit que le débat pouvait être posé, depuis, il n'est plus ministre. Je ne sais pas si c'est lié.
C'est inquiétant, parce qu'on ne veut pas faire en France le parallèle alcool-cannabis, en parlant, voilà, que ça peut être aussi une drogue, aussi, l'alcool.
C'est une drogue. Et puis, on est quand même le pays du vin. Donc, voilà. Et puis, on est aussi la fille aînée de l'Église. Donc, forcément, le cannabis, ça ne va pas avec. Le vin de messe, donc on peut passer. Enfin, il y a tout un ensemble de trucs qu'on peut tirer dans tous les sens pour arriver à faire en sorte que ça ne bougera pas tout de suite.
Et pourtant, en France, il y a 500 000 fumeurs réguliers. Donc, ça paraît quand même, c'est un chiffre qui est quand même important. Donc, ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. On se dit qu'il est temps que les politiques, peut-être, s'y mettent.
Il y a une vraie hypocrisie. Évidemment, on a un énorme problème d'alcoolisme en France, mais par contre, il ne faut pas toucher au petit verre de vin rouge avant de partir. Il y a quand même des pays qui n'autorisent pas l'alcoolémie au volant. Et nous, c'est parfait, 0,5, c'est bon. Ça veut dire que vous pouvez un peu boire, mais pas trop. Par contre, il y a effectivement énormément de fumeurs. Et puis, parmi les parents, notamment la génération des baby-boomers, tout le monde a fumé, mais les politiques, non.
En tout cas, le débat reste ouvert sur le cannabis. Les informés de France Info touchent à leur fin. Rapidement, Jacques Bonstein, la une de GQ ce mois-ci.
La une de GQ, c'est Benoît Poulvorde pour le film La Rançon de la Gloire.
Voilà, pour passer de bonnes fêtes, en tout cas. Et Virginie Petit, la une de Cour internationale.
Les robots, nos futurs meilleurs amis.
C'est un peu inquiétant, hein, quand même. Merci beaucoup à Julien Bayou et à Emery Doligier d'être passé une émission à retrouver en podcast sur franceinfo.fr. Et la soirée continue sur France Info avec Julien Mogue. Bonsoir.